Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le Yémen. Nous retrouvons nos invités, Marine Poirier, doctorante en sciences politiques à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et auteur de Yémen, le tournant révolutionnaire, paru aux éditions Cartala. Laurent Bonnefoy, chargé de recherche aux séries Sciences Po et auteur de Salafisme in Yémen aux éditions de l'Université de Columbia à New York aux États-Unis. Et François-Xavier Trégan, journaliste et envoyé spécial du quotidien Le Monde au Yémen. La revendication donc des attentats de Charlie Hebdo par Al-Qaïda dans la péninsule arabique remet ACPA sous les feux de la rampe. Nous en avons parlé dans la première partie de l'émission, en mettant en exergue, François-Xavier Trégan, la situation qui prévaut aujourd'hui au Yémen, marquée par des rivalités politiques et des tensions confessionnelles. J'aimerais qu'on revienne sur cette montée en puissance des houthistes, qui sont donc issus du schisme et qui ont pris petit à petit, en tout cas pendant l'année 2014, possession de territoire jusqu'à la prise de Sanaa en septembre 2014. De quoi est-il question exactement, François-Xavier Trégan?
Oui, les houthistes sont devenus les nouveaux maîtres d'une partie du Yémen, en tout cas. Situation spectaculaire aujourd'hui, vous le rappeliez, la prise de Sanaa en quelques heures, mais juste avant la prise de la province de Amran, puis après la prise de Sanaa, Ib, Hodeïda, Damar, le groupe se rapproche de la grande ville de Taïz. Tout cela sans quasiment une balle n'ait été tirée, en tout cas pour parler de la province de Amran et de Sanaa. Aujourd'hui, la capitale yéménite est aux couleurs du mouvement Ansar Allah. Les slogans sont partout. Ils entourent le mur d'enceinte de la vieille ville de Sanaa, la ville millénaire. À partir de Bab el-Yémen, les miliciens en armes contrôlent tous les accès à la capitale, contrôlent les voitures, les mouvements de personnes. Marine Poirier rappelait tout à l'heure le slogan que l'on entend partout dans les rues, mort à l'Amérique, mort à Israël, la victoire ou gloire à l'islam. La situation est vraiment spectaculaire car elle illustre aussi la défaite quasiment totale de l'État yéménite. Où est l'État yéménite aujourd'hui? Personne ne sait véritablement où il se trouve, tant les miliciens tiennent les ministères, les bâtiments publics, les casernes militaires, et que cette situation très très paradoxale semble attiser les tensions entre communautés confessionnelle aujourd'hui au Yémen.
Alors juste pour nos auditeurs, il est important de rappeler que le Yémen est plutôt majoritairement sunnite, davantage que chiite. Alors, cette prise de Sanaa a conduit à quelque chose de particulier. Je veux dire, on sent qu'il y a un décalage entre la prise de Sanaa et la prise du pouvoir suprême au Yémen. Finalement, les houthistes sont restés dans un cadre, dans une certaine limite. Marine Poirier.
Cette montée en puissance et cette prise de Sanaa par les miliciens d'Ansar Allah a mené à la renégociation des termes de la transition politique et au renversement du gouvernement quand même. Donc aujourd'hui, Ansar Allah a réussi à renégocier sa place, à s'imposer comme un partenaire central, voire des partenaires principaux des autorités. Renégocier sa place en imposant donc un nouvel accord qui s'intitule l'accord de paix et de partenariat national, signé donc en septembre entre les différentes forces politiques, et donc qui est un accord qui, si vous voulez, amende, si ce n'est remplace, l'accord du Golfe, qui était l'accord fondateur de la phase transitoire et qui avait été signé en novembre 2011 par le président Saleh, qui, en acceptant donc de se retirer du pouvoir, avait pu bénéficier de l'immunité.
Laurent Bonnefoy.
Oui, quelques éléments de contexte justement sur la polarisation, sur l'émergence de ce courant qu'on appelle le courant houthiste ou la rébellion houthiste. Son arrivée aux portes du pouvoir, ou peut-être même en surplomb du pouvoir, puisque aujourd'hui il est en mesure de contrôler à peu près les mouvements des ministères et puis de mettre la pression sur le président de la transition, Abdelhabou Mansour Hadi. L'émergence des houthistes a été surprenante parce que historiquement il représentait une identité qui avait été largement marginalisée, le zaïdisme, et qui, son émergence contredisait un mouvement profond, enfin une dynamique profonde de la société yéménite qui était celle d'une convergence des identités religieuses. C'est-à-dire qu'on avait affaire au Yémen à cette dualité qu'on retrouve dans d'autres pays de la région avec une minorité chiite, les zaïdites, et une majorité sunnite. Or, pour l'immense majorité des zaïdites, cette identité n'avait plus lieu d'être d'une certaine manière. Elle était remplacée par quelque chose de plus englobant, qui était une identité musulmane. Or aujourd'hui, l'arrivée des houthistes vient contredire ce mouvement. Et de plus en plus, on a un mouvement de renouveau profond qui vient polariser la société selon une matrice qui est similaire à celle qu'on constate en Irak, par exemple, avec une confrontation de plus en plus explicite entre l'identité sunnite et l'identité zaïdite. Et qui, là, crée des points de friction importants qui génèrent de la violence, des attentats, et qui est extrêmement préoccupante, je pense.
Alors, est-ce que le Yémen aujourd'hui est au bord d'une guerre civile, quand on entend ce que vous dites les uns les autres, cette confrontation entre chiites et sunnites, est-ce qu'elle va monter en puissance?
Les tensions sont en effet très très nombreuses, inquiétantes aujourd'hui au Yémen. Les houthistes ont déclaré vouloir s'attaquer à au moins trois éléments, à l'injustice, à la corruption et au terrorisme. Les houthistes combattent aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, Al-Qaïda au Yémen, dans la province d'Al-Baïda, où le groupe s'était établi ces derniers mois. Mais dans le même temps, comme le précisait Laurent Bonnefoy, Al-Qaïda au Yémen a déclaré une guerre aux hérétiques, je cite, dans la propagande du groupe terroriste, les hérétiques étant donc ces houthistes, zaïdites, branches du chiisme. Tout ça crée en effet un frémissement confessionnel tout à fait inédit au Yémen, mais les autres points de tension également ne manquent pas au Yémen. Il y a dans le sud des mouvements séparatistes, sécessionnistes qui sont extrêmement actifs, qui observe avec beaucoup de curiosité, d'ailleurs, le succès des houthistes qui contrôlent plusieurs districts et provinces. Pourquoi pas eux? Depuis l'unification du Yémen entre le nord et le sud, qui ne date que de 1990, ce n'est pas très ancien, le mouvement réclame plus de justice, pour en résumer cela en un seul mot, et il trouve curieux que les houthistes aient pu prendre possession d'une partie de territoire en quelques jours. Donc tout cela relance aussi le mouvement séparationniste. Et il faut aussi coupler ces événements, disons, armés, ces violences armées, à une violence quotidienne et latente, qui est une violence sociale et économique. Le Yémen est dans le rouge dans quasiment tous les domaines. La malnutrition, l'éducation, l'accès à l'eau potable, les fournitures en électricité des grandes villes, etc. Donc les points de tension, qu'ils soient dus à des violences armées ou à des dominantes sociales ou économiques, sont très nombreuses au Yémen.
Alors plusieurs questions par rapport à tout cela. C'est finalement d'abord qu'est-ce que propose les houthistes aujourd'hui à Sanaa, et puis est-ce que finalement aussi ce que vit le Yémen aujourd'hui et la conséquence d'une réunification que vous évoquiez à l'instant, François-Xavier Trégan, récente, difficile et finalement pas digérée, c'est la première question. Et puis aussi, sur quoi sont-ils attendus et le temps compte de ce que j'entends aussi, de ce que vient de dire François-Xavier Trégan. Laurent Bonnefoy.
L'émergence du houthisme, en effet, sa nouvelle popularité a contre-courant, d'une certaine manière, des évolutions et de dynamiques profondes au Yémen, s'appuie aussi sur, d'une certaine manière, l'échec de la révolution. L'impression que la révolution n'a pas tenu ses promesses et que les changements annoncés n'ont pas été réalisés, notamment en matière de justice, notamment en matière économique.
Révolution de 2011.
La révolution de 2011, oui. Et donc sur cet aspect-là, il est à craindre que malheureusement les houthistes font beaucoup de promesses, parce que on a des défis qui sont des défis réellement structurels. Le principal étant bien évidemment celui de l'économie, et c'est d'autant plus difficile pour les houthistes de tenir ces promesses-là que le pays est extrêmement dépendant de l'aide internationale. Et leur positionnement anti-américain, anti-israélien et aussi, il faut le dire, anti-saoudien, ne va pas générer beaucoup d'aide sur le plan international. Et le Yémen, si les houthistes prenaient formellement le pouvoir, ne trouverait pour seul allié que l'Iran, dont on parle beaucoup, en appui aux miliciens houthistes, mais dont l'implication concrète n'est pas avérée.
Alors justement, vous me permettez cette transition sur les questions de géopolitique. Quand on entend rivalité entre sunnites et chiites, évidemment, on va penser aux deux pays que vous venez de mentionner, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que l'on sait du rôle des uns et des autres dans ce qui se passe aujourd'hui au Yémen? Marine Poirier.
l'influence iranienne, mais aussi l'influence du Hezbollah sur la rébellion chiite, elle est répétée notamment par le gouvernement yéménite, elle est dénoncée depuis des années. On a assez peu de preuves concrètes, mais c'est évident que il y a des références idéologiques et certainement donc des échanges techniques et un soutien certainement financier à la rébellion houthiste par l'Iran et le Hezbollah. Mais c'est évidemment très très dur, voilà, de mettre la main sur ces éléments, et c'est aussi très largement fantasmé, cette influence-là, et c'est un argument pour décrédibiliser le mouvement et souligner son extranéité et donc son absence de légitimité sur la scène yéménite. Donc attention à ne pas surinterpréter ces influences-là et ces jeux géopolitiques, ces jeux d'influence régionaux qui existent, mais il me semble que c'est important de replacer le mouvement houthiste dans son contexte national yéménite. On parlait de la progression du sectarisme au Yémen, ou du risque d'un conflit confessionnel. Il est réel, mais pareil, ne pas interpréter les conflits actuels uniquement à travers ce prisme et bien voir que derrière, il y a des rapports de force politique qui se renversent, il y a des solidarités tribales qui sont parfois plus prégnantes que ces appartenances confessionnelles, des affiliations aussi partisanes, des alliances et des rivalités entre familles au pouvoir. Donc attention à ne pas surestimer cette variable-là. On est dans un jeu politique local très complexe où les rivalités de pouvoir jouent un rôle extrêmement important. Et une des preuves de cela, c'est récemment le soutien apporté par l'ancien président Ali Abdallah Saleh, donc qui a combattu pendant plus de 7 ans la rébellion chiite. Donc son récent retournement de position et son alliance avec les rebelles houthistes pour mettre à mal ses principaux adversaires, notamment le clan tribal Al-Ahmar et son ancien bras droit qui s'était retourné contre lui en 2011, le général Ali Mohsen.
Laurent Bonnefoy.
Oui, ce rôle de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, je pense, est fondamental aujourd'hui pour comprendre la situation. Alors, dire ça implique peut-être de revenir sur le processus de transition tel qu'il a été construit et imaginé par les Yéménites, certes, mais aussi par la communauté internationale, en particulier le Conseil de coopération du Golfe, qui était finalement la mise en place, après des mois et des mois de mobilisation populaire, qui était une mobilisation pacifique pour l'essentiel, en 2011, et cet accord de transition s'est appuyé sur une sanctuarisation de l'ancien régime, mais une mise à l'écart qui était largement incomplète. C'est-à-dire que l'ancien président est resté dans le jeu politique et a bénéficié d'une immunité. Et ainsi, plutôt que d'être écarté comme Ben Ali ou Moubarak, jusqu'au retour de Sisi, a continué à exister, a continué à peser sur le jeu politique. Et de façon tout à fait habile, aujourd'hui, il a, en se positionnant au-dessus de la mêlée, laissé finalement le président de transition, Hadi, user son crédit, a laissé aussi, voire instrumentalisé, la confrontation de plus en plus directe entre, d'un côté, les miliciens houthistes, et de l'autre, les frères musulmans, qui apparaissaient en 2012 comme les grands gagnants du processus révolutionnaire, mais qui progressivement se sont aussi discrédités et confrontés au pouvoir. Et aujourd'hui, avec d'une certaine manière le président de transition qui est hors jeu, avec les frères musulmans qui sont aussi décrédibilisés et marginalisés, on est face à une situation de confrontation de plus en plus directe entre, d'un côté, les houthistes et puis de l'autre, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, avec au-dessus, comme potentiel recours, l'ancien régime. Et il est vrai que la situation économique génère une forme de nostalgie de la part d'une partie significative de la population, en disant, certes, le régime de Saleh, qui a été au pouvoir pendant plus de 3 décennies, n'était pas idéal, mais au moins, on avait la sécurité, au moins, on avait accès à de l'essence, des carburants, et puis à de l'électricité.
Alors, dans ce contexte, et ce sera la dernière question sur laquelle je vais vous demander de répondre, finalement, comment est-ce que les uns et les autres, vous voyez la situation évoluer? Quel avenir pour le Yémen à court et moyen terme, François-Xavier Trégant?
Question bien sûr très très difficile, mais les houthistes, en quelques mots, disent vouloir aller de l'avant. En fait, avec les liens qui sont maintenant établis très clairement avec l'ancien régime d'Ali Abdallah Saleh, ils sont en train de promouvoir un spectaculaire retour en arrière. Mmh. Il risque d'y avoir la collusion à un moment donné, peut-être, entre ces deux envies contradictoires, car les houthistes goûtent au pouvoir. Mmh. Peut-être commence-t-il à l'aimer. Et de l'autre côté, l'ancien président Saleh peut imaginer pouvoir faciliter le retour aux affaires de certains de ses proches. Comment cela pourra-t-il terminer? Peut-être, qui sait, entre une confrontation directe entre ces deux grands acteurs, avec peut-être aussi en arbitre un peuple yéménite qui, comme le disait Laurent Bonnefoy, semble en effet avoir de plus en plus de nostalgie pour les succès de l'ancien régime.
Marine Poirier.
Oui, nostalgie pour l'ancien régime, mais aussi désir d'État très fort de la part de la population, face donc à cet État très faible, absent, remplacé par des miliciens de différents groupes. Alors, on peut quand même se raccrocher au processus institutionnel en cours. Donc, la transition et le dialogue national qui a été organisé l'année dernière a débouché, enfin, au cours des derniers mois, sur la rédaction d'une nouvelle constitution qui doit sortir, être présentée dans les prochaines semaines. Cette constitution, elle pose les bases d'un futur État fédéral au Yémen, qui peut être une solution, effectivement, pour réorganiser les pouvoirs. Comment construire un État fédéral alors même que l'État central a du mal à survivre. Mmh. Donc, beaucoup de questions, mais voilà, il faut quand même essayer, je pense, de se raccrocher à ce processus institutionnel.
Laurent Bonnefoy.
Oui, ce processus institutionnel est, comme le disait Marine Poirier, absolument fondamental. C'est sans doute la seule dynamique qui, aujourd'hui, doit être réellement soutenue par la communauté internationale, soutenue par les yéménites, et non pas discréditée, comme on l'entend peut-être un peu trop souvent dans les médias yéménites, et y compris de la part de certains observateurs. Le processus est certes imparfait, il a été largement soutenu et encadré par la communauté internationale, les pays du Golfe, mais aussi l'ONU, mais c'est réellement quelque chose qui est précieux aujourd'hui, et qui a constitué une forme de spécificité yéménite. Il faut se rappeler que le dialogue national a mis pendant un an 565 représentants de l'ensemble des tendances, hormis Al-Qaïda, qui ont pu discuter et faire émerger une forme de consensus. Cette dimension-là s'appuie sur aussi quelque chose qui est peut-être une spécificité yéménite, même si c'est difficile d'être culturaliste, mais simplement de considérer que ça fait des années qu'on parle de la fragmentation du Yémen, de l'explosion du Yémen. Dans le même temps, on a remarqué qu'il y avait une forme de résilience aussi et que les élites étaient capables, à un certain moment, de s'entendre. Certes, en 2014, on n'a jamais été aussi proche du précipice, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir peut-être espérer et compter sur les élites, sur le processus politique. Mais pour ça, il faut absolument que la communauté internationale aussi s'engage en appuyant de façon constructive et peut-être de façon financière davantage dans les processus qui vont recrédibiliser l'État.
En tout cas, ce qu'on peut peut-être imaginer, c'est que effectivement, donc cette revendication des attentats de Charlie Hebdo par Al-Qaïda dans la péninsule arabique remette de facto le Yémen sous les feux de la rampe et peut-être contribue à ce que le pays soit appuyé, accompagné dans cette volonté de stabilisation. C'est la fin de Géopolitique qui était réalisée en partenariat avec l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Merci à nos invités. Marine Poirier, doctorante en sciences politiques à l'IEP d'Aix-en-Provence et auteur de Yémen, le tournant révolutionnaire, paru aux éditions Cartala. François-Xavier Trégant, journaliste et envoyé spécial du quotidien Le Monde au Yémen, et Laurent Bonnefoy, chargé de recherche aux séries Sciences Po et auteur de Salafisme in Yémen, qui est paru aux éditions de l'Université de Columbia à New York, aux États-Unis. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à Cuba, avec la tenue la semaine prochaine à La Havane des premiers entretiens officiels bilatéraux entre Américains et Cubains. À demain.
International.